les jardinières.
Et oui, avec les jardinières. Par ces temps froids, nous n'avons qu'une envie aujourd'hui, c'est de rester bien au chaud avec un thé, un chocolat chaud ou même un café à la main. Bonne nouvelle, c'est exactement ce que nous allons faire ce matin.
En compagnie de notre invité Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy, nous allons apprendre à nous occuper des plantes d'intérieur et plus particulièrement des cactus et des orchidées.
Vous pouvez nous poser vos questions par SMS, vous tapez RJB, RTN ou RFJ, vous laissez un espace et vous nous l'envoyez au 939. Nous y répondrons en fin d'émission. Et puis juste avant de se quitter, nous parlerons de vinaigre dans notre chronique Pas de salade entre nous. Et vous verrez que le vinaigre ne sert pas qu'à la vinaigrette. Juste le temps de vous souhaiter la bienvenue. Et c'est parti.
Mylène, Sandra, Aileen, les jardinières.
Ce matin, on garde nos pantoufles et on reste bien au chaud. Les plantes qui nous intéressent aujourd'hui, vous l'aurez deviné, sont d'intérieur et ça nous va plutôt bien. Pas besoin de sortir pour les entretenir.
Par contre, notre invité, lui, est sorti tôt ce matin de son lit pour nous apprendre à bien s'occuper des plantes d'intérieur. Merci Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy. Merci d'être avec nous ce matin et bonjour.
Bonjour.
Les plantes d'intérieur sont donc à l'honneur aujourd'hui, mais dites-nous Fabrice, ces plantes, à part faire joli dans notre maison, elles servent à quoi ?
Ben, dans un premier temps, c'est peut-être pour se sentir bien chez nous, se faire plaisir, et puis dans un esprit peut-être plus pratique, mais ça c'est plutôt pour des gens qui attachent de l'importance, on pourrait retrouver un côté aussi par rapport aux plantes dépolluantes dans nos appartements. Pour combattre des choses comme des produits, les ameublements, où c'est qu'on a de la peinture, les isolants, les matériaux de construction, toutes ces choses-là, on peut se battre un petit peu la contre grâce aux plantes aussi.
Est-ce qu'il y a des plantes qui sont plus propices justement à ce genre de fonction ?
Alors oui, chaque type de choses qu'on voudrait un petit peu se battre contre correspond à un type de plante. Elles ne vont pas toutes fonctionner de la même façon contre tous les matériaux. Donc le fécus va travailler plutôt contre une chose, et ainsi de suite.
Alors commençons par le début, on aimerait avoir des plantes dans notre appartement. À quoi est-ce qu'on doit penser en premier, par exemple, si on a des allergies, des enfants ou des animaux ?
Ben, au niveau des allergies, en règle générale, les gens sont plutôt sensibles par le fait des pollens. Donc dans les plantes d'intérieur, on n'a pas beaucoup de cas, ou alors peut-être des personnes très sensibles. Mais après, on peut quand même avoir une ou deux plantes, comme le Ficus benjamina. On peut révéler des types d'allergies par rapport à une substance qui est véhiculée dans la plante, qui est de la famille des latex. Et puis, par rapport à ça, elle peut être transmise par donc justement les feuilles, dans les branches aussi. Et puis, on n'a pas forcément besoin d'être en contact avec. Mais faut pas en avoir peur non plus, parce que je pense, à ma connaissance, moi je connais personne qui est sensible à ça, mais ça dépend de notre degré de sensibilité au niveau des allergènes, des choses comme ça.
On est un peu débutante, hein, Fabrice, vous l'aurez remarqué, on aime les jolies choses, on aime aussi que ça sente bon. Quelle plante d'intérieur vous nous conseilleriez si on veut commencer justement, si on part à zéro ?
Bah, on a un panel de plantes quand même qui s'offre à nous, qui est assez vaste. On a les Scheffleria, les Yucca, les Ficus, les Sansevieria, les Aglaonema, les pieds d'éléphant, les orchidées, les violettes, les cactus. Avec ça, on peut déjà avoir pas mal de plantes chez nous. Et puis pour chacun de ces genres, on peut avoir des petites variétés avec des couleurs de feuillage, des grandeurs, des volumes différents, qui fait qu'on peut se retrouver avec un grand nombre de plantes chez nous facilement.
Justement, on va parler de ses tailles et tout ça. On va choisir notre nouvelle plante d'intérieur au magasin. On a souvent une étiquette sur la plante avec des jolis petits symboles dessinés. Mais bon, pour nous, hein, comme l'a dit Sandra, bonne débutante qu'on est, on ne comprend pas grand-chose. Alors, on a, nous, les symboles sous les yeux, on va les expliquer. Hein. Par exemple, on a un soleil qui est dessiné. Alors ça, c'est facile, hein, Fabrice ?
Voilà. Alors, le soleil, ben, c'est tout simplement pour l'exposition de la plante. En règle générale, peut-être ce qu'on va faire dans un premier temps, quand on va se retrouver au magasin, c'est peut-être acheter sur un coup de cœur. Les coups de cœur, bon, ben, on peut arriver chez nous, après regarder cette étiquette et puis dire, bon, ben, celle-là, elle se plaît plus ou moins au soleil, plutôt dans des situations un petit peu plus ombragées. C'est un petit peu ça le principe de base. Mais aussi, peut-être, la démarche en premier plan, c'est de se dire, si on veut, dans notre salon, planter une plante, c'est peut-être connaître déjà son emplacement avec la luminosité qu'on a pour aller au magasin et acheter la plante adéquate par rapport à sa situation, par rapport à l'ensoleillement.
Il y a aussi deux autres icônes, c'est des petites gouttes d'eau, une où c'est noté moyennement humide et l'autre toujours humide. Alors, bon, moi, la différence entre moyennement humide et toujours humide, ça ne me parle pas trop.
Alors, moyennement humide, plus humide. Donc, par exemple, on a des plantes qui vont nécessiter un arrosage avec des fréquences un peu différentes. On a des plantes comme le cactus où c'est qu'on va avoir un arrosage qui peut être très espacé. On peut avoir des plantes comme les orchidées qui seront à un arrosage par semaine. Et on peut avoir d'autres plantes, pardon, comme des plantes qu'on dit carnivores qui viennent de lieux plus humides, où c'est que là, on va tenir un substrat un peu plus humide durant la semaine, mais sans pour autant le détremper, toujours.
Et puis, il y a deux symboles sur l'étiquette qu'on a ce matin. Il y a deux derniers symboles. Alors, le premier, c'est le diamètre 12 cm. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, non, tu ne passeras pas la porte de chez toi si ça dépasse les 12 cm ou quoi?
Alors, ça, en règle générale, c'est plutôt pour le diamètre du pot, pour un bon développement de la plante. Parce qu'une plante, elle peut avoir un système racinaire totalement différent par rapport à une autre. Et puis, justement, par rapport à ce développement racinaire, on va choisir un pot qui va correspondre à un diamètre plus ou moins important, parce qu'on aura une racine qui sera plus traçante. Et puis après, on a la profondeur aussi, où c'est qu'on aura une racine plus descendante dans le pot.
Justement, j'ai une flèche avec 20 cm. Alors ça, c'est la profondeur, c'est ce que vous venez de dire.
C'est juste.
C'est pas ma plante qui fait 20 cm, genre la même chose, tu ne passeras pas la porte.
Alors ça, après, on peut avoir une autre annotation sur la fiche qui est un peu plus technique, où c'est qu'on va nous dire, attention, cette plante-là, elle peut monter effectivement à des hauteurs plus importantes. Oui, ça, c'est juste.
Et c'est bien de le savoir à l'avance. Pour les 12 cm, je voulais juste revenir, c'est au maximum. Donc si c'est écrit 12 cm de diamètre, on n'aura jamais besoin d'un pot plus grand?
Alors par rapport à ça aussi, c'est toujours évolutif par rapport à la plante. Mais après, on peut peut-être retrouver comme avant, pour, comme a dit Sandra, c'est peut-être par rapport aussi au volume de la plante, si on ne connaît vraiment pas son envergure. Donc ça dépend, les étiquettes, il faut bien les lire. Là, on a un symbole qui est assez, assez général, mais il faut peut-être aller un petit peu plus loin dans la recherche, pas se retrouver avec une plante qui est toute petite, où c'est qu'on nous dit qu'elle n'aura pas un gros développement. Et puis savoir que cette plante, tout d'un coup, elle peut faire 50-60 cm de diamètre, et puis après se retrouver avec quelque chose qui soit peut-être avec 20-30 cm de plus, puis après qu'il n'y ait plus, si on voulait la mettre sur un petit meuble, qu'il n'y ait plus le passage à côté.
En tout cas, Fabrice, merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle qu'aujourd'hui, on parle des plantes d'intérieur. Et si vous avez des questions d'ailleurs à poser à Fabrice Rondé, notre invité ce matin, vous pouvez le faire par SMS. Vous tapez RJB, RTN ou RFJ. Suivi de votre question, vous envoyez le tout au 939. On y répondra avec grand plaisir en fin d'émission. Tout de suite, une petite pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Fabrice Rondé, paysagiste à Porrentruy, vous êtes notre invité. Avec lui, nous parlons de plantes d'intérieur.
Voilà, on a sauté le pas, on a acheté notre première plante, on arrive à la maison, mais la grande question, où est-ce qu'on va la mettre, notre plante?
Comme on a vu avant, on a regardé déjà dans quelle pièce on voulait la mettre, donc on a une petite idée de la plante qu'on allait choisir. Donc après, ce qu'on va regarder, il y a deux, trois petits points qui sont peut-être importants, c'est pas la mettre en plein courant, ça c'est pas trop bon. Pas la mettre, si on a une saison comme maintenant, directement peut-être sur le radiateur, ou bien on peut le faire, mais il faudrait mettre un humidificateur ou contrôler qu'il n'y ait pas trop d'air sec à cet endroit-là, parce que les feuilles pourraient sécher. Un endroit bien éclairé ou qui corresponde à la plante. Et puis faire attention aussi que les températures pour la plante soient adéquates.
Est-ce qu'on peut mettre des plantes vertes dans la chambre à coucher, Fabrice?
Oui, c'est possible, parce qu'avant on parlait de plantes dépolluantes par rapport à des matériaux, à des produits, mais effectivement les plantes ont d'autres propriétés, il y a des études qui ont été faites, elles sont approuvées pour certains y croient dur comme fer, mais on a des choses quand même qui ont été constatées. On a l'aloe vera qui peut, dans une chambre à coucher par exemple, aller gêner un petit peu les acariens contre les ondes électromagnétiques, pour ceux qui ont des télés, pour ceux qui ont leur natel et qui font recharger dans leur chambre. On a la menthe, qui est aussi une plante qui peut évacuer les tensions, le stress. On parle même contre les nausées. On a les cactus, là on y revient, pour protéger de nouveau des champs électromagnétiques. Ça peut être un apport aussi pour une source d'énergie. Et puis on a les violettes africaines, donc la violette traditionnelle comme on l'appelle par chez nous, qui est aussi une dépolluante. La lavande, qu'on rencontre pas souvent en intérieur, mais aussi une plante contre le stress, la nervosité, l'angoisse. Donc on peut avoir des plantes comme ça qui répondent à certains critères, oui.
Bah, notre tante, par exemple, si elle nous offre une plante dans un joli pot, lui fait une place au salon, à part l'arroser de temps en temps, elle a besoin quoi d'autre, cette plante ?
Ben, on veillera si elle est en période de floraison. Ça dépend si on est en repos végétatif, comme la période hivernale, ou si on est en pleine saison, si pour y apporter un petit peu d'engrais. On peut, en période depuis l'automne jusqu'au printemps, faire attention, parler avant des radiateurs, et puis en montant le chauffage dans les appartements, d'avoir un air ambiant plus sec. Donc on peut vaporiser un petit peu de l'eau pour humidifier. Et puis après, sur le printemps, on peut penser au rempotage.
Vous parlez des saisons pour les plantes d'intérieur, mais c'est un peu difficile, j'imagine, pour ces pauvres plantes. Elles sont toute l'année à la même température. Elles sentent vraiment le changement des saisons, hiver, printemps
Alors, elles peuvent le sentir sur plusieurs facteurs. Comme on vient de le voir maintenant, ben, on a quand même l'air ambiant. En été, on aura les fenêtres plus ouvertes, donc on aura un air ambiant différent par rapport à l'hiver, où c'est qu'on aura un air ambiant plus sec, plus chaud. Donc après, on peut aérer en hiver et puis on peut se retrouver avec des courants froids qui viennent. Donc ça peut être assez gênant pour la plante. Et puis après, on peut avoir aussi cette luminosité en hiver qui varie énormément par rapport à une luminosité de plein été, où c'est qu'on va se retrouver avec quelques heures en plus par jour de soleil.
Et puis souvent on voit des petites boules brunes à la place de la terre dans les plantes. Ça se voit de plus en plus. C'est quoi exactement, Fabrice ?
Alors ça, c'est pour des cultures qu'on dit en hydroculture, la plante. Donc ça veut dire qu'on a un système de soutien, de maintien de la terre, de la plante, plus dans la terre, mais par ces billes d'argile. Ces billes d'argile ont un pouvoir de rétention d'eau, on va contrôler les niveaux d'eau, donc aussi par des petites jauges qu'on a dans ces bassins. Du fait qu'on n'a plus de terre, on n'a plus de matériaux, de matière nutritive qui est apportée par la terre ou le terreau directement, mais il faudra faire attention en apportant justement un engrais liquide. Donc, mais c'est quelque chose effectivement qui est simple d'utilisation, où c'est qu'on parle plus de rempotage, à part si vraiment à l'achat la plante était dans un tout petit récipient, puis après qu'il faudrait selon son évolution le mettre dans un récipient un peu plus grand.
Et puis on parlait de dangerosité tout à l'heure hein, par rapport aux plantes. Est-ce que justement ces petites boules qui ressemblent un peu à du chocolat, surtout aux yeux des enfants, elles sont dangereuses?
Bah, dangereuses.
Non, elles ne sont pas dangereuses.
Non, dangereuses, non, mais il faudrait. On sait que les enfants sont attirés partout, sont curieux, donc on pourrait très bien imaginer, mais comme une plante dans du terreau, voir les enfants aller jouer et en mettre partout dans la maison.
C'est plus facile à ramasser.
Ouais, ça roule partout aussi. On peut les retrouver sur le canapé, on peut les retrouver partout. Donc, c'est pas dangereux, mais c'est vrai que si un enfant mange de la terre, c'est pas sympa. Mais s'il mange une de ces petites boules, il peut peut-être un peu s'étouffer. Mais là, je veux pas dire que c'est de la parano, mais à un moment donné, voilà, si on fait attention à tout, on peut avoir peur de tout.
Et par contre, c'est la plante verte, elle est dans la terre. Est-ce qu'il faut la changer, cette terre ? Et puis cette terre, par exemple, on peut en prendre un peu dans notre jardin ou en bas de notre immeuble si on trouve un peu de terre à l'extérieur ?
Non, parce que les plantes vertes sont vraiment avec des demandes très particulières. On peut avoir des plantes comme le cactus qui va venir des endroits très secs, donc il faudra des terres qui soient légères, sableuses, drainantes. On peut avoir des plantes comme les plantes, avant qu'on disait carnivores, qui seront plutôt des plantes un petit peu plus spongieuses, les terres plus humides. On va avoir des plantes vertes avec des terreaux aussi qui seront un peu plus traditionnels. Pour chacun de ces cas, il faudra acheter soit un terreau spécial pour orchidées, pour cactus, pour vraiment qui correspondent au type de plantes qu'on a chez nous.
On dit souvent qu'il faut parler aux plantes vertes, Fabrice, et ainsi elles seront toujours en bonne santé. C'est vrai ?
Alors, c'est une légende urbaine. Oh. Mais c'est vrai quand même. C'est vrai quand même parce que si on part du principe qu'on leur parle, ça veut dire qu'on est présent, qu'on les regarde, qu'on observe. Et puis à partir de là, on va anticiper certaines choses, comme par exemple ces airs ambiants par rapport au printemps, par rapport à l'été ou à l'automne. Et puis on va anticiper aussi sur des éventuelles maladies, des choses comme ça. Donc à partir du moment donné qu'on fait attention à quelque chose, ben effectivement, ça aide à être dans leurs soins et à leur bon développement.
Merci beaucoup Fabrice. On se retrouve dans quelques minutes. Nous parlerons ensemble des orchidées et des cactus.
7h, 8h, 8h. Les jardinières.
Ce matin, les jardinières s'occupent de vos plantes d'intérieur. Et parmi les plantes d'intérieur, nous en avons choisi deux, les orchidées et les cactus.
C'est sûr, hein, cet hiver, vos cactus vont rester cloîtrés chez vous, mais comment bien s'en occuper? Réponse avec notre invité ce matin, Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy.
Alors, quand on possède un cactus, on a l'impression que la plante ne vit pas, qu'elle est toute sèche. Et du coup, Fabrice, est-ce qu'on doit quand même l'arroser?
Alors, comme on disait avant, du fait qu'on a un air ambiant qui est un peu plus sec, il serait quand même bien d'apporter de l'eau de temps en temps pour avoir un petit peu d'humidité pour que la racine ne sèche pas. Parce que autrement, ce qui va se passer, dans un premier temps, qu'on ne va pas observer, c'est que la plante, elle va tourner sur ses réserves, comme on dit. Et puis, une fois qu'elle aura épuisé ses réserves, ben, elle va mourir. Donc, de temps en temps, une fréquence, ça dépend un petit peu. Il faut un petit peu faire une observation, savoir quel type de cactus on a. Et puis, savoir si on doit l'arroser une fois toutes les semaines, un petit peu, une fois tous les deux semaines. Je sais qu'il y en a qui les oublie un petit peu, ça va plus longtemps, ça se passe bien, mais ouais, ça serait bien une fois par semaine, juste un petit peu d'eau.
Alors moi j'en ai un, chez moi je me permets de poser une question, vous êtes là. Il n'est pas très grand, il doit faire moins de 10 cm d'eau, il est vraiment tout petit, tout riquiqui, je dois aussi l'arroser une fois par semaine?
Oui, mais avec un tout petit peu moins d'eau.
Mais genre, c'est quoi, 3 gouttes?
Ouais, mais il faut vraiment pas que la terre soit humide. Il faut juste qu'il y ait une traçabilité d'eau en surface. Il faut pas que l'eau s'écoule dans la soucoupe en dessous. Okay. C'est vraiment un tout petit peu d'eau. Vaut mieux en remettre une fois chaque semaine un tout petit peu plutôt que de faire que l'eau soit à travers tout le pot, se retrouve dans la soucoupe et puis là, on aura un pourrissement au niveau de la racine et puis de la base du cactus.
Et ces cactus, ben souvent on les utilise surtout pour décorer, hein, le plus souvent, un peu comme des bibelots, elles prennent la poussière. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les dépoussiérer? Comment est-ce qu'on dépoussière un cactus, Fabrice?
Comment dépoussiérer un cactus? Vous avez des bonnes.
On ne dépoussière pas un cactus, c'est ça?
Si, on peut le faire, j'imagine. Il y a plein de choses. Moi, je n'ai jamais trop fait, je dois avouer franchement. Mais ce que vous pouvez faire, c'est peut-être souffler un petit peu dessus, si vraiment. Mais je pense qu'il n'y a pas autant de poussière que ça chez vous.
Ah, vous n'êtes jamais venu chez moi, hein, mais.
Non, pas encore. Et puis, on a aussi la possibilité d'avoir une petite poire et puis de souffler un petit peu dessus, si vraiment il devait y avoir des minons, si on avait un appartement peut-être avec beaucoup de boiseries, de choses comme ça qui dégagent un petit peu plus de poussière. Mais je pense que juste en faisant insuffler un peu d'air, je pense que ça devrait suffire.
Pour être sûr que mon cactus se porte bien, est-ce qu'il y a un endroit où je dois le mettre, genre au bord d'une fenêtre, près d'une source de chaleur ou un autre endroit?
Alors oui, effectivement, ils aiment la lumière, ils aiment la chaleur. Ce qui serait idéal, c'est d'allier ces deux côtés-là. Et en plus de ça, faire attention à cet air ambiant qui pourrait être trop sec aussi également. Et puis, normalement, le cactus, c'est une plante qui nous pose vraiment pas trop de problèmes.
Est-ce qu'il faut, comme les plantes vertes, rempoter un cactus?
Bien sûr, c'est pareil, ils ont quand même le même développement. Quand on achète des cactus, ils peuvent être très jeunes avec des tout petits pots, donc effectivement, ils ne vont pas tenir bien longtemps là-bas dedans. Donc là, on va choisir un terreau approprié qui soit super léger, super drainant, et puis pour éviter ces pourritures qui est l'ennemi du cactus.
Et comme on l'a dit tout à l'heure, hein, les plantes d'intérieur subissent aussi les saisons, et comme l'hiver arrive, est-ce qu'on doit donner des soins particuliers aux cactus chez nous?
Alors, le cactus, dans la belle saison, on va apporter un petit peu d'engrais, comme dans beaucoup de nos plantes. Puis en hiver, on va peut-être le laisser se reposer un petit peu. On va diminuer, en tout cas, supprimer les engrais. Et puis après, au printemps, en ressortant de l'hiver, on va faire ce rempotage. Donc l'hiver, on va profiter de ces journées un peu plus courtes. Et puis, pour le laisser se reposer un petit peu, pour avoir une belle végétation après au printemps. Et puis éviter ces courants d'air, comme on a vu aussi.
On va changer de plante, Fabrice. Laissons les aiguilles piquantes de côté pour la douceur et la légèreté des orchidées. Encore une plante, hein, qui ne vient pas de nos contrées à la base, mais qu'on aime avoir chez soi. Alors, on rapporte une orchidée à la maison. Dans quelle pièce faut-il la mettre pour lui mettre toutes les chances de son côté?
Alors, l'orchidée, en discutant un petit peu avec les gens, on s'aperçoit que c'est une plante qui n'a pas les mêmes... les mêmes expositions dans tous les appartements, toutes les maisons. Donc ça dépend aussi de la grandeur de nos fenêtres. Donc si on a une pièce avec une grande fenêtre, on va peut-être pouvoir la mettre dans une situation que chez une autre personne, ça jouerait pas si elle était en nord-ouest. Mais ce qu'il faut regarder, c'est que sur l'étiquette, vous allez voir, Dans la plupart des cas, on a un petit soleil barré par sa moitié avec un côté bien ensoleillé et puis un côté ombre. Donc il faut une situation bien éclairée. Ça c'est vraiment l'emplacement qu'il leur faut.
Et puis l'orchidée, vous l'avez dit, lui faut donc bien éclairer du soleil, mais pas trop. Est-ce qu'elle survit l'orchidée en hiver ?
Ah, facilement, oui, parce que on a des orchidées qui sont indigènes, qu'on va retrouver dans nos prairies, mais les orchidées qu'on a dans nos appartements sont vraiment des plantes qui ne sont pas de nos contrées. Donc l'hiver, elle va continuer de se développer. Vous verrez chez pas mal de gens qu'elle continue de fleurir même abondamment. Donc il n'y a pas de souci. Normalement, si on a trouvé sa place, l'orchidée, on a certaines personnes qui ont la chance d'avoir des orchidées qui n'arrêtent pas de fleurir.
Les chanceux.
Et justement, à nouveau, avec cet hiver qui arrive, est-ce que ces orchidées ont besoin d'un traitement spécial ? Est-ce que, par exemple, il faut les poser à un endroit encore plus chaud au-dessus d'un radiateur, enfin d'un chauffage plutôt, maintenant qu'on arrive dans l'hiver, pour les entretenir ?
Alors, ce qu'il y a, c'est donc l'emplacement, la lumière. 1, 2, la température. En règle générale, on parle de 17 à 22, 25 degrés pour les températures de la pièce. Et puis après, du fait qu'on va remonter cette température ambiante encore une fois, on va regarder pour vaporiser un petit peu au niveau du feuillage pour maintenir une humidité. Parce que l'orchidée aime bien l'humidité quand même. Il ne faut pas détremper le feuillage, mais avec un petit vaporisateur, une fois par jour, mettre un petit coup de vaporisateur. Et puis comme ça, on aura pas mal de chances que ça se passe bien. Un arrosage par semaine. Donc, de nouveau, là, c'est sans rien que de l'eau, pas d'engrais peut-être. Et puis après, une fois par mois, par exemple, ou une fois tous les deux semaines, ce qu'on peut faire, c'est immerger le pot dans une petite bassine remplie d'eau. Après, bien le laisser s'égoutter. Et puis après, on la laisse pour deux semaines, un mois. Et puis on recommence.
Comme l'orchidée est une plante assez fragile, est-ce qu'on peut utiliser l'eau du robinet ou est-ce qu'elle a besoin d'une eau spéciale ?
Ben, la plupart des personnes travaillent avec une eau du robinet, mais c'est vrai que si on pouvait avoir un petit peu d'eau de pluie et puis la laisser se mettre à température ambiante, ben, ça peut être un plus, hein, parce que l'eau est moins dure et meilleure.
Et qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille, qui peut nous montrer les signes, hein, qui peuvent nous montrer que notre orchidée se porte mal ?
Alors, si on vient d'acheter une orchidée, le temps qu'elle trouve sa place, qu'elle peut faire, c'est d'un coup perdre ses fleurs très rapidement. Mais on ne sait pas quel est le parcours aussi de l'orchidée jusqu'avant de venir chez nous. La deuxième chose, ça peut être aussi les feuilles qui peuvent commencer de passer de ce beau vert à un vert pâle pour passer après au jaune. Donc ça, c'est les premiers signes, les premières caractéristiques. Et puis après, on voit, elles ont des racines qui dépassent du pot. Donc après, on peut les voir aussi se dessécher. Et puis là, on a trois facteurs qui nous disent ici, attention, elle n'est pas à sa place.
Merci Fabrice d'être avec nous, avec vos conseils. On est sûr d'avoir les plus belles orchidées au monde et surtout, elles tiendront plus qu'une semaine dans notre appartement. Et puis vous, si vous avez une question à poser à notre paysagiste, c'est le dernier moment pour nous l'envoyer par SMS. Vous tapez RJB, RTN ou RFJ, vous laissez un petit espace et vous nous l'envoyez au 939. On se retrouve dans une poignée de minutes, toujours en compagnie de Fabrice Rondet, paysagiste à Port-en-Truy.
7h, 8h. Les jardinières.
Et les jardinières, tous les samedis matins entre 7h et 8h, sont en compagnie d'un invité pour répondre à vos questions. Et d'ailleurs, des questions, on en a reçues par SMS, notamment d'Emilie qui nous dit « Bonjour, je n'ai pas de plante chez moi, car mon chat tombe amoureux à chaque fois que j'en ai une et finit par la déterrer ou pire, la manger. Est-ce que Fabrice, vous avez un conseil à donner à Emilie pour une plante auprès de laquelle le chat il ne s'approcherait pas ?»
Moi, je pense que ce chat, c'est peut-être un problème d'occupation. S'il l'a fait, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est peut-être qu'il s'ennuie. Il n'a peut-être pas assez de jouets ou de trucs comme ça. Donc, je pense que la plante en elle-même, elle n'y est pour rien du tout, cette malheureuse. Mais le truc qu'il y a, c'est qu'on pourrait peut-être trouver un petit truc pour mettre sur le terreau, par exemple des petits petits galets décoratifs assez lourds pour qu'ils n'en mettent pas plein à la maison. Après, au niveau de la plante en elle-même, il peut se faire éventuellement les griffes sur le tronc si c'est une plante qui est montée sur un tronc et qui est assez rigide. Après, au niveau des feuillages, je pense que la plante ne l'intéresse pas. Je pense plutôt de nouveau que c'est un jeu. Et puis, par rapport à ça, ce qu'on pourrait éventuellement en faire, c'est penser à ce chat en lui mettant de l'herbe à chat, un truc comme ça. Est-ce que c'est un chat qui sort? Est-ce que c'est un chat qui a assez de jouets? Moi, je pense que le problème vient de là. La plante en elle-même ne doit pas l'intéresser.
J'ai également une question pour vous, Fabrice. Elle dit « Bonjour, comment puis-je faire hiverner un bougainvillier ?» Merci, bonne journée, c'est signé Nadia. Alors tout d'abord, expliquez-nous rapidement ce que c'est qu'un bougainvillier.
Alors un bougainvillier, c'est une plante qui est assez grande, avec une belle grande floraison, qu'on passe l'été sur sa terrasse, et puis en hiver, il faudrait la rentrer dans une pièce un peu plus fraîche, comme dans un garage, un sous-sol, pas trop chauffé, et puis y apporter de l'eau d'une façon un peu plus espacée pour pas réactiver la végétation. Et puis après, ce qui est important aussi, c'est quand on est dans une phase comme celle-là, c'est au printemps quand on va la ressortir, c'est attendre que les nuits soient bien stabilisées au niveau des températures, pas qu'ils prennent un coup de froid sur la nuit. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est la rentrer, la sortir. C'est un petit peu long au niveau du travail, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est super important ça.
Et si on n'a ni garage ni cave pour ranger notre bougainvillier, on peut le laisser dehors, on lui met une toile de jute sur le pied?
Alors ce qu'il faudrait le faire, si c'était vraiment le cas, il faudrait le mettre à l'abri d'un mur. Il faudrait protéger le pot contre les gelées. On a des nattes de coco, par exemple, qui existent, qui sont assez performantes. Donc, éviter que les racines ne gèlent. Et puis, après, dans la partie aérienne, effectivement, on peut mettre des petites toiles aussi. Faire attention quand même, parce qu'on peut avoir des nuits avec des périodes sur une semaine, deux semaines, où c'est qu'on a des températures très basses. Donc, ce ne sera pas la même chose quand même que si on pouvait la mettre dans une pièce... Où c'est qu'on a une température un peu contrôlée, régulière. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est qu'on ait une présence un petit peu de lumière, hein, pas dans un garage qui est complètement obscur toute la journée.
Alors ce matin dans Les Jardinières, nous avons parlé de plantes d'intérieur. Fabrice, est-ce que vous pouvez nous rappeler dans les grandes lignes les points importants quand on veut avoir une plante, et surtout si, pour que cette dernière reste vivante un peu plus d'une semaine? Alors est-ce qu'on récapitule avec vous ensemble la place où il faut la mettre, le soleil, le froid, l'humidité?
Alors il y a déjà deux choses avant l'acquisition de la plante qu'on peut faire, ou bien au moment de l'acquisition. La première, c'est de dire, on part de chez soi, on sait où c'est qu'on veut mettre une plante, donc c'est de choisir la bonne plante par rapport à cet endroit. Ou alors on se balade et puis on a un coup de cœur, on la ramène chez nous, puis lire l'étiquette correctement pour la mettre à sa bonne place. Et puis ensuite, ce qu'il faut faire attention, c'est répondre par rapport aux températures, aux fréquences d'arrosage, au rempotage, adapté avec un bon terreau. Et puis, normalement, on devrait très bien s'en sortir.
Merci pour vos bons conseils, Fabrice. On va tâcher de s'en souvenir pour avoir des belles plantes à l'intérieur. On va sauter carrément du coq à l'âne. Pouvez-vous me citer les ingrédients pour faire une sauce à salade, Fabrice?
L'huile, le vinaigre. Après, on peut mettre, pourquoi pas, des petits oignons. des herbes, des choses comme ça.
Et la moutarde, vous en faites quoi de la moutarde, Fabrice? Ça,
c'est pas faux.
Vous l'avez dit, dans les ingrédients, il y a le vinaigre.
Les jardinières, pas de salade entre nous.
Chères jardinières et chers vous, je vais vous délivrer aujourd'hui un secret. Outre la fameuse vinaigrette qui l'a rendue célèbre, le vinaigre a des pouvoirs que vous ne soupçonnez même pas.
Vous êtes en train de nous dire que le vinaigre aurait des super pouvoirs?
Oui, exactement. Et au contraire de Superman, il n'a pas besoin de revêtir un cap et un slip moulant pour faire des étincelles.
Bon, hein, c'est vrai qu'il donne un bon goût aux salades et à la mayonnaise, mais il ne faut pas exagérer non plus. Hein.
Et c'est à ce moment que j'ai envie de crier haut et fort « Sortons le vinaigre de notre cuisine !» Parce que ce dernier n'a pas sa place qu'entre l'huile et le sel. On peut l'utiliser, entre autres, pour laver sa maison, oui, du sol au plafond. On mélange de l'eau, 1 litre, avec un verre de vinaigre blanc et quelques gouttes d'huile essentielle. Et c'est tout, c'est vraiment tout. C'est économique et en plus, ça ne fera pas de mal à la planète. On peut aussi en mettre dans le lave-vaisselle à la place du rince éclat ou comme assouplissant dans la machine à laver.
Et à part pour faire briller, est-ce qu'on peut s'en servir pour autre chose, Mylène?
Mais oui. Prenez par exemple du vinaigre de cidre, 2 à 3 cuillères à soupe dans un pchit-pchit, vous savez, ce truc qu'on remplit d'eau et on presse dessus. Et à la fin de votre lavage de cheveux, vous pchit-pchitez vos cheveux. Et ensuite, vous ne rincez plus. Hein. Pas de panique, vous n'allez pas sentir le vinaigre. L'odeur va disparaître. Mais le miracle, c'est que vos cheveux seront doux et beaux. Et en plus, le vinaigre fait fuir les poux.
Ah ben, il est magique, votre vinaigre, Mylène.
Mais ce n'est pas tout. Là, j'ai un petit peu l'impression d'être une vendeuse de téléachat. Je disais donc, vos cheveux rincés, le vinaigre va couler dans les canalisations et va les détartrer. Et hop, d'une pierre deux coups, de beaux cheveux, des robinets qui brillent. On dit merci qui ? Merci qui ?
Merci, Mylène.
Mais non, merci le vinaigre, voyons. Je ne vais pas étaler toutes les vertus du vinaigre, car elles sont nombreuses, mais je vais terminer avec celle-ci. Saviez-vous que le vinaigre détruit les graisses et aide à la perte de poids ?
Ben ça, j'avoue que je trouve que c'est plutôt génial.
Oui, mais attention, hein, boire une bouteille de vinaigre ne vous fera pas entrer dans un 36. Elle vous brûlera tout simplement l'estomac. Allez, pas besoin de dire merci les filles.
Les jardinières, pas de salade entre nous.
Il est temps pour les jardinières d'aller s'occuper de leurs plantes d'intérieur. Un grand merci à Fabrice Rondet, paysagiste à Pont-Antruy, d'être venu nous donner tous ses bons conseils. Après ça, hein, plus d'excuses pour laisser mourir le ficus.
Les jardinières seront de retour la semaine prochaine et préparez vos bottes car nous irons dans le potager. Si d'ici là vous avez des questions qui vous viennent en tête, vous n'hésitez pas, vous pouvez les poser via notre formulaire qui est à disposition sur nos sites internet.
Et avant de se quitter, Fabrice, j'ai une dernière chose à vous demander. Est-ce que vous connaissez les blagues genre des messieurs et mesdames ?
Je sais pas, j'y retiens pas bien, mais si vous m'en dites une...
Oui, j'en ai une pour vous, j'en ai préparé exprès une pour vous. C'est monsieur et madame Kidé qui ont une fille. Comment l'appelle-t-il ? Monsieur et madame Kidé.
Je vous écoute.
Eh ben, il l'appelle Laure.
Laure, voilà, elle était facile.
Voilà, Polopich, Laure Kidé. Elle était jolie, elle était pour vous, Fabrice.
C'est sympa, c'est gentil, j'apprécie.
Merci d'avoir été en notre compagnie ce matin. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dès 7h, pour de nouvelles aventures jardinièresques, ça se dit ?
On va dire que ça se dit.
Depuis aujourd'hui, on le dit. Alors, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.
Bye bye.
7h.
Au revoir.
8h. Les jardinières.